Louer et remercier soit le Seigneur, c'est vrai. Si nous avions rien qui pourrait nous réjouir, alors seulement cette pensée d'appartenir au Seigneur, d'être sa possession et d'avoir reçu la vie éternelle, d'avoir reçu la grâce de Dieu, d'être un enfant de Dieu. Il y a assez d'enfants d'hommes. Par la grâce de Dieu, nous pouvons être enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Quel privilège Dieu nous a accordé par cela. La parole qui a été lue était déjà si précieuse. Et on remarque comme les hommes de Dieu connaissaient le plan de Dieu, connaissaient la volonté de Dieu. De quelle profondeur ils ont puisé. Pour nous, c'est encore aujourd'hui précieux, car nous puisons de la même plénitude. Jean, le Baptiste, disait, de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Et la même chose, nous pouvons le dire jusqu'à dans ce jour. Nous puisons d'une source qui ne tarit jamais. Ce n'est pas une citerne avec de l'eau stagnante, c'est la source de la vie, le rocher frappé duquel l'eau de la vie jaillit. Et notre Seigneur disait, celui qui boit, celui qui a soif, pardon, qui vienne et boive. Et nous pouvons encore cet après-midi, dans la foi, venir à Dieu. Il ne nous a jamais déçus. Et il ne nous décevra pas non plus aujourd'hui. Je voudrais déjà me remettre à vos prières, à vos requêtes, Dieu voulant. Jeudi à 11h, je décolle brièvement pour l'Europe et ensuite pour l'Afrique. Et ensuite, je reviens par Zurich et de nouveau ici à Krefeld. Tout tel que Dieu conduit et comme il le veut, pas ma volonté, pas notre volonté, mais que sa volonté soit faite. Donc je reviens pour la réunion de Zurich et ensuite Krefeld. Beaucoup veulent écouter la parole de Dieu. Et ensuite, je pense à ceux qui, ici dans cette ville, pourraient l'écouter et ne trouvent pas nécessaire de venir. Cela se passe comme dans les jours des rois d'Israël, comme nous l'avons lu cet après-midi. L'un déterminait, décidait ici, sera l'adoration. L'autre disait, ce sera plutôt là-bas. Et chacun faisait une chose pour soi. Et il y en a qui choisissaient des sacrificateurs selon leur volonté. Et l'ordre divin est méprisé. Ils établissaient des sacrificateurs qui n'étaient pas de la descendance d'Aaron. Et c'est comme ça que aujourd'hui chacun le fait comme le temps des juges. Vous connaissez, n'est-ce pas, le temps des juges? Et il y a un verset, une phrase qui parle pour soi. Juges 25:25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est toujours comme ça que ça a été. Les hommes qui ne peuvent pas se soumettre à Dieu, ou bien alors qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, font ce qui leur semble bon sans comprendre de quelle manière ils transgressent la parole de Dieu et comment est-ce que Dieu, lui, continue à marcher et conduit son peuple de clarté en clarté. Ce qui est le plus douloureux, c'est de rencontrer des hommes qui, n'est-ce pas, eux, veulent bâtir à Frère Branham un monument. Il y en a qui traverseraient même à pied l'océan si ils pouvaient voir cet homme vivant, s'il pouvait le rencontrer. Mais de faire ce qu'il prêchait, il n'en pense même pas, il ne le pense même pas. De mettre en pratique la parole de Dieu. Et on remarque de quel esprit ces gens-là parlent. J'aurais bien voulu l'écouter, bien voulu le voir de son vivant, peut-être même bien voulu de son vivant l'embrasser dans leurs bras. Ça, des centaines et des milliers l'ont fait. de son vivant. Et où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils marchent exactement dans leur propre voie comme ceux qui font ce qui leur semble bon. Dieu a un plan, il a un chemin avec son peuple. Nous n'en pouvons rien qu'il nous ait montré ce chemin. Mais nous sommes reconnaissants dans notre cœur de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu et ça nous le reconnaissons aujourd'hui comme dans les jours de Moïse et toujours. Seigneur, si j'ai vraiment trouvé grâce devant toi, alors fais-moi savoir tes voies, tes chemins, ton plan. Et c'est en cela que nous reconnaissons si nous avons vraiment trouvé grâce devant Dieu ou pas. Pas l'hommage que nous voulons apporter à un vase que Dieu utilise, mais la parole que Dieu a prononcée par la bouche d'un homme, c'est ce qui compte. Et c'est ce que nous voulons écouter. Et pour cela, comme Moïse, comme dans Deutéronome, il est écrit au chapitre 29, on n'a pas besoin d'aller au-delà de l'océan pour aller la chercher, ou bien alors plus monter au ciel pour la faire descendre. La parole est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche, pour que tu la prononces. La parole, nous l'avons reçue. Elle nous a été accordée, nous l'avons reçue. Et nous avons seulement besoin de la mettre en pratique. Alors nous sommes, avec sûreté, les bénis du Seigneur. Je suis aussi reconnaissant de ce que cela devient toujours plus visible que un vrai amour divin est dans notre cœur et que la paix de Christ peut nous gouverner. Je remarque, hier, je parlais avec mon frère Jean Gilson et je ressentais comme les requêtes des autres sont dans son cœur. Et je crois que c'est avec nous comme ça. Nous ressentons l'un pour l'autre. Et nous voulons mettre de l'huile dans chaque blessure et faire du bien. Nous voulons que personne soit confus, mais que tout soit aidé. Nous voulons continuer et nous allons aussi avoir dans le futur des réunions et toujours, comme nous devons le dire, et ça nous le pensons réellement, nous disons toujours si Dieu le veut, comme Dieu le veut et si nous vivons. Je crois que je l'ai déjà dit, le 1er mai, nous pensons être à Paris, ce sera vendredi, le 2 mai à Bruxelles, ce sera donc un samedi, et le 3 mai, Dieu voulant, alors nous serons ici, et j'espère que tous nous aimerons, nous sommes des gens qui aiment voyager, et que vous pourrez venir avec nous lors de cette tournée. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec nous, avec sa présence, avec sa bénédiction, avec l'onction de son esprit, qu'il soit sûr, qu'il puisse venir sur les réunions, sur celui qui parle, sur ceux qui écoutent, sur nous tous, pour que nous puissions réellement, dans un seul esprit, écouter, comprendre, dans le même esprit, écouter, comprendre, adorer, recevoir, que nous soyons ainsi un seul cœur, pour que nous puissions devenir ainsi un seul cœur et une seule âme. Jésus déjà a dit autrefois dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, je voudrais lire ce verset, et ensuite, moi aussi, je retournerai à l'épître aux Éphésiens, dans Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc alors il s'agit de ce que nous puissions naître de l'esprit de Dieu, d'une nouvelle vie, dans une nouvelle vie. Et nous l'avons dit, la semence pour cette naissance est la parole de Dieu. Et nous avons dans notre cœur reçu la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu l'a vivifié. Et nous parlons pendant ce week-end de ce sujet, le lieu juste pour l'adoration, le juste lieu que Dieu a choisi pour l'adoration des élus. Elle est déterminée pour les prédestinés. Dieu a conduit toutes choses. Il est celui qui sait toutes choses. Et il est le Dieu Tout-Puissant. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, nous laisser insérer dans son programme. Et je voudrais d'Éphésiens chapitre 3 encore lire plusieurs choses. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 2. Vous avez certainement entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Frère Rousse l'a déjà lu, ce que Paul avait écrit auparavant. Comme profondément les pensées là de Dieu vont, comme profondes sont, elles sont. Et aussi ce que Paul écrit dans l'Épître aux Romains, nous pouvons nous accorder complètement à cela dans Romains 11, verset 33. Oh, Romains 11, verset 33, quelle profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Comme ses jugements sont incompréhensibles et ses voies sont insondables. Pour l'homme, pour l'esprit de l'homme, incompréhensible, insondable, mais de l'esprit de Dieu, il est écrit que c'est lui qui sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Et ça, nous avons pu l'expérimenter personnellement, que l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de la divinité et nous les a révélés. Paul continue à écrire dans Romains 3, au verset 4. Il voulait dire Éphésiens. Éphésiens 3, verset 4. Éphésiens 3, verset 4. Par là, si vous le lisez, vous pouvez reconnaître mon intime familiarité avec le mystère du Christ, ce qui, dans les siècles passés, n'a pas été fait connaître aux enfants des hommes, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Pas les scribes, pas les pharisiens, pas les critiqueurs, mais comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Tout ce qui vient de Dieu vient par révélation. La chair et le sang ne nous l'a pas jusqu'à aujourd'hui, ne nous a jusqu'à aujourd'hui rien révélé et ne nous révélera, ne pourra pas aussi dans le futur nous révéler quelque chose de divin, quelque chose qui vient de Dieu. Mais c'est l'Esprit qui sonde toutes choses et révèle ce que Dieu veut nous faire savoir, veut nous faire savoir. Et là, de tout notre cœur, nous en sommes reconnaissants. Je voudrais encore un peu continuer à lire concernant le nom. Car si notre Seigneur nous enseigne à prier, que nous devons prier et dire que ton nom soit sanctifié. Et ensuite, il se tourne au Père et il dit, si vous voulez prier, alors dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comprenons-nous une fois pour toutes que le nom du Père et du Fils est le même nom. Car le Père s'est révélé dans le Fils. Le Fils est la forme visible, la révélation, la manifestation visible du Dieu invisible, tel que Yahvé était la forme visible d'Élohim. C'est ainsi que le Fils, dans le Nouveau Testament, est le Père révélé en forme visible. Toujours un et le même Dieu, la même personne. Ça n'a pas d'importance de quelle désignation nous le trouvons décrit dans la Bible comment et où est-ce qu'il se révèle? Il reste toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il dit, dans le prophète Ésaïe, chapitre 43, « En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. » Ça, nous le croyons jusqu'aujourd'hui encore. Il est le seul et il le demeurera. Car il n'y a qu'un seul et unique nom qui a été donné aux hommes dans lequel ils peuvent être sauvés. Un seul nom qu'ils doivent invoquer pour être sauvés. Et déjà le prophète Joël l'a prophétisé. Celui qu'invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que dans sa signification divine, nous l'avons reçu révélé. Et nous voulons aussi croire que le salut nous a été aussi accordé. La plupart des croyants sont pour eux-mêmes un obstacle en ce qui concerne la vie de croyants. Ils pensent que s'ils ont cru, alors ils planent sur les nuages. Non, nous sommes encore avec les deux pieds sur terre. Nous devrions l'être. Nous avons à surmonter des épreuves et extérieurement, nous utilisons les mêmes rues et les mêmes aliments que tous les autres hommes. Extérieurement, il n'y a pas de différence. Mais dans notre cœur, à l'intérieur, avec nous, quelque chose s'est passé. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Je voudrais lire à partir de la page 11 dans la brochure. Son nom était le nom de Dieu. Dieu a plusieurs désignations. Déjà, Dieu lui-même, c'est une désignation. Dieu, il a été appelé Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Il est appelé la rose de Saron, l'étoile du matin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Père, Fils et Saint-Esprit. Toutes ces choses sont des désignations. Mais son nom, le nom qui est le nom de Dieu, Jésus-Christ, le Oint, ça, c'est son nom. Il a beaucoup de désignations, mais il n'a qu'un seul nom, l'unique nom. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes dans lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y en a qu'un seul. Nous avons déjà touché cela. Et c'est peut-être que je continue tout de suite à lire citation. Le prophète le disait. Nous voulons un peu suivre la signification de son nom. Le prophète disait que son nom s'appellerait Emmanuel. Serait Emmanuel. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 7. Dans Matthieu 1, verset 22, il est écrit. Tout cela s'est accompli pour que la parole s'accomplisse que le Seigneur, par le prophète, avait prononcé, qui disait, voici, la Vierge enfantera et deviendra la mère d'un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire, traduit, Dieu avec nous. Ici est contenu un grand mystère. Alors que le Seigneur devint homme, on ne l'a pas appelé Emmanuel, mais Yahshua. Et les scribes connaissaient bien, assez bien les Écritures pour savoir. Mais il fallait qu'il s'appelle Emmanuel. Il fallait que ce soit Dieu lui-même, Dieu avec nous. Ils ne le connaissaient, ils n'ont pas reconnu. Ici, j'ai déjà parlé de ça. Ici, nous avons écrit même là-dessus. Tout à son temps. Emmanuel est devenu Yahshua. Et ensuite, il redeviendra Emmanuel. Et toute la terre sera remplie de sa gloire. D'abord, avant qu'il puisse être avec nous et en nous, il fallait qu'il devienne notre sauveur. Et pour pouvoir devenir notre sauveur, il fallait qu'il apparaisse dans un corps de chair pour pouvoir mourir dans la chair, pour que nous puissions être vivifiés dans l'esprit. Oh, quand je pense à tous ces mystères de Dieu, alors mon cœur me touche. Je suis touché dans mon cœur, dans le plus fond de mon être, de mon cœur. Les gens se disputent là-dessus. Et les plus simples parmi les simples se réjouissent parce que Dieu leur a révélé et fait connaître ces choses. Je continue à lire. Emmanuel, Dieu avec nous. Son nom était Jésus, comme le nom de son Père. Il vint au nom de son Père. C'est dans son Fils que Dieu a placé son nom. C'est le seul lieu où vous pouvez l'adorer. Le seul endroit où Dieu vous rencontrera et vous rencontre, c'est dans le Fils. Et ça aussi, nous l'avons souligné. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu. Il y a un lieu de rencontre avec Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, frère Branham continue et dit, dans l'Ancien Testament, le sang des sacrifices a coulé pour faire l'expiation des péchés. Dans le Nouveau Testament, c'est le sang saint et divin qui a coulé pour faire naître une semence divine, pour engendrer une descendance, une église rachetée qui ensuite sera sans tache, apparaîtra devant lui, sera et sans tache, sans ride et irréprochable, qui se tiendra devant lui. À la page 12, maintenant, je lis le dernier paragraphe. Ici, il est parlé de nouveau du nom. En mon nom, ils chasseront des démons. Cela se réfère au nom du Père. Il l'a placé son nom en Jésus, en lui. Il rencontre l'adorateur. C'est en lui qu'il nous rencontre pour chasser les démons. En lui, il nous rencontre. Il vient à nous, en lui, pour guérir les malades. C'est en lui qu'il vient à nous, qu'il nous rencontre pour sauver. C'est en lui qu'il nous rencontre pour sauver, pour délivrer et pour baptiser et remplir du Saint-Esprit. C'est le seul lieu où Dieu rencontre l'homme pendant l'adoration. Pendant son adoration, nous avons constaté ce que Jésus encore disait. La parole Jésus, le mot Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Jéhovah Sauveur. Ici, frère Branham relève, souligne que Dieu, dans le nom de Jésus, nous rencontre dans le nom de Jésus. Si nous voulons chasser les démons, quoi que nous fassions en action ou en parole, nous devons le faire et nous pouvons le faire toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes conscients de la révélation et de la signification du nom de Jésus, le nom de Nazareth, le nom de Jésus de Nazareth, alors Dieu pourra être avec nous et pour nous accorder ce que nous lui demandons et par cela pour confirmer sa parole. Mais nous devons nous attendre à ce que Dieu le fasse. Il continue encore ici un petit paragraphe à la page 13. Dieu le Seigneur a choisi la porte. Il a choisi la porte. Il a choisi le portail et la porte. Jésus disait, je suis la porte pour les brebis. Je suis cette porte. Il est Jéhovah Sauveur. C'était étrange. Jésus parlait du chemin et il était le chemin. Quand il parlait de la vérité, il est la vérité. Quand il parlait de la vie, il est la vie. Quand il parlait de la résurrection, il est la résurrection et la vie. Quand il parlait de Dieu, et il est Dieu. Tout ce dont il parlait, ce qu'il témoignait, il était ça lui-même. Il était lui-même. Mais mes frères et sœurs, c'est à ce point que ça, les choses doivent arriver, que tout ce que la parole de Dieu dit de nous est le témoin pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons le témoigner et nous devons l'être, pas seulement le dire, nous devons l'être. Et Dieu aussi accomplira cela aussi à nous. Nous pouvons nous attendre à cela. Dans le dernier paragraphe, encore à la page 13, il est écrit: il y a beaucoup de preuves infaillibles que Jésus est ce lieu. Il est la porte. Il est le nom et le seul chemin que Dieu a donné aux hommes pour, dans l'adoration, le rencontrer. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la porte, l'alpha et l'oméga, la rose de Saron, l'étoile du matin, etc., etc. Qu'est-ce qui doit être dit par cela? Cela doit nous montrer, doit nous montrer qu'il est tout en tous, qu'il est devenu pour nous tout en tous. Je suis heureux de ce que, avec vous, je n'avais pas auparavant lu toute cette brochure, seulement quelques pages telles qu'elles étaient nécessaires pour la réunion. Maintenant, à la page 14, au deuxième paragraphe, Frère Branham dit ici: nous voulons seulement constater que ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit que c'est par le baptême d'un seul esprit que nous avons tous été unis en un seul corps. Par le même Saint-Esprit, nous avons été baptisés dans le corps de Christ. Nous ne sommes pas entrés dans le corps en se serrant les mains, en adhérant, ou bien par le baptême d'eau, mais nous sommes entrés dans ce lieu par le Saint-Esprit, ayant été baptisés dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. L'Église du Seigneur est une Église qui a été appelée à l'existence par l'Esprit, créée par l'Esprit. C'est un organisme spirituel créé par l'Esprit, quoique nous sommes ici existants en tant qu'hommes. Mais le royaume de Dieu n'est pas à caractère naturel ou terrestre. La vie éternelle, tout ce que nous avons reçu de Dieu, est surnaturel, quoique, comme déjà dit, nous recevons cela ici, dans un corps de chair. Allons maintenant à la page 15, le premier paragraphe. Tant que vous êtes dans ce corps, Romains 8 est valable, verset 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Ça, c'est le lieu où il n'y a plus de condamnation. Comment est-ce qu'en Christ, il pourrait encore avoir une condamnation s'il a porté nos fautes, il a porté notre condamnation et notre jugement, notre condamnation, il l'a porté, est tombé sur lui pour que nous ayons la paix, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle création. Il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il marche désormais selon l'Esprit. Nous voulons continuer à lire. Si nous appartenons à une église baptiste, méthodiste ou presbytérienne, quoi que ce soit, mais si vous êtes en Christ, vous êtes devenu une nouvelle création. Et il n'y a plus de condamnation en vous, dans aucun domaine de votre vie, dans tout ce que vous faites, parce que vous marchez selon l'Esprit. Et ça, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Dieu nous rencontre, Dieu rencontre l'adorateur. C'est là que vous êtes considéré en Christ comme une nouvelle création, car vous êtes mort en face des choses du monde. Vous êtes vivifié en lui. La présence surnaturelle de Dieu est avec vous jour après jour. Oh, quelle parole merveilleuse! Nous pouvons que dire, Seigneur, que ces vérités-là soient manifestées réellement dans notre vie. Que la présence vivante de Dieu, oui, la puissance vivifiante, soit et puisse être avec nous pour nous vivifier par la grâce de Dieu. Je continue à lire. Voyez, ça n'a pas d'importance combien d'hommes voulaient juger et condamner Job et dire qu'il n'était pas dans le juste. Mais par l'Holocauste qu'il apportait, il observait l'ordre de Dieu. Il savait qu'il avait été justifié parce que il gardait les commandements de l'Éternel, de Dieu. Et par cela, il avait été justifié devant Dieu. Car il faisait les choses que Dieu lui demandait dans sa parole. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu nous demande, exige de nous? Qu'est-ce que toi tu dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que Dieu exige de moi? Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Où est-ce que tu dois aller? Quel est ton devoir? Qu'est-ce que nous devons faire? Vous le savez déjà. La foi. De croire à l'œuvre accomplie de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. La foi en Jésus-Christ nous sauve. Nos propres œuvres, n'est-ce pas, n'ont plus de place là où l'œuvre de Dieu a eu lieu. Là, avec ce que tu... Là, c'est pas toi qui viens avec ce que tu veux faire. Là, c'est Dieu qui te rencontre avec son œuvre que nous ne pourrions jamais faire. C'est peut-être donc qu'il a fait pour nous. Et il a pris notre place pour que nous puissions prendre sa place. Il mourut pour nous, pour que nous puissions vivre pour lui. Maintenant, nous avons seulement à croire à ce que Dieu a fait pour nous, à croire de manière divine que nous avons été déjà réconciliés avec Dieu et que le sang sur la croix à Golgotha a coulé pour nous réconcilier avec Dieu, pour pardonner toutes nos fautes, pour expier tous nos péchés et pour nous sortir de la condamnation, de la prison, de la mort, pour nous amener dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, dans une vie nouvelle en Christ Jésus, dans laquelle nous marchons. Et cela n'aura pas lieu aujourd'hui, cela a déjà eu lieu pour nous. Continuons à lire. La présence vivante de Dieu nous illumine tous les jours et nous fait sortir de la mort des credos et des confessions mortes à la vie et à la parole de l'heure. La parole du jour, celui qui a reçu vraiment la vie de Dieu et qui ne le prétend pas ou bien ne le dit pas seulement qu'il a vraiment reçu, à cette personne, l'Esprit de Dieu le conduira à la parole de l'heure. Et cette parole de l'heure lui sera révélée par l'Esprit de Dieu. Dieu a des choses qu'il fait. C'est ainsi comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps au petit déjeuner de la petite fleur. Dès qu'une graine vient à la lumière, elle commence à pousser. Elle s'abreuve de la source de Dieu et pousse toujours plus loin et grandit toujours plus jusqu'à ce que les bourgeons apparaissent et que la fleur émerge. Mais la graine doit venir à la lumière. C'est d'abord venir à la lumière. C'est pour cette raison que Dieu a donné de la lumière à l'heure, au temps du soir, afin que nous puissions voir quelle semence de la parole de Dieu, basée sur les promesses, sont semées en ces jours. Bénis sont tous ceux qui écoutent Vraiment, écoute et reçoive ce que l'Esprit maintenant dit et a à dire à l'Église maintenant. Et l'Esprit ne parle pas sans lire. L'Esprit parle toujours en lisant. Et cela veut dire qu'il révèle la parole écrite et met en lumière les promesses données dans la parole de Dieu. Et alors vient la croissance. Puis vient la croissance. Et vient la vie. Et nous grandissons par la grâce de Dieu. Maintenant, encore ce paragraphe à la page 15. Le seul unique plan fixé par Dieu pour chaque âge est sa parole. Son fils vint et a accompli chaque promesse, réalisé chaque promesse qui avait été prédite et promise pour chaque âge. Chaque parole qui se référait à notre Sauveur, en général, même tout, donc que ce soit sa naissance ou bien son œuvre, tout ce qui était écrit est devenu une réalité divine dans sa vie. L'heure était arrivée, Dieu veillait sur sa parole et tout s'est accompli. C'est la même chose encore maintenant. Le Dieu vivant a tout ordonné et tout est réparti. Et quand l'heure arrive pour quelque chose dans le royaume de Dieu, alors Dieu révèle sa parole à ses esclaves, serviteurs, et à cela aussi, à son peuple, c'est-à-dire à tous ceux qui sont prêts à écouter ce que Dieu, par sa parole, a à dire. Il est écrit ici encore, « Tous les prophètes ont apparu exactement au temps convenable, au temps voulu de Dieu. Ils étaient la parole de Dieu qui vivait ici sur cette terre. Ils étaient la parole. Jésus disait qu'ils étaient des dieux. Jésus a appelé les prophètes des dieux. Vous pouvez lire dans le psaume 82 et vous pouvez lire dans Jean 10. Notre Seigneur l'a réellement dit ainsi. À la page 16 maintenant de la brochure, au dernier paragraphe en bas. Maintenant nous voyons que dans chaque âge, quand Dieu disait que quelque chose de particulier allait arriver, un homme alors apparaissait pour l'accomplir. Il y a eu des hommes qui le vivaient pour l'expérimenter. C'était Dieu lui-même qui était et qui vivait dans ces hommes-là, car c'était dans l'âge l'accomplissement de sa parole. Ce n'est pas toi et moi qui pouvons et qui serons capables par nos propres efforts d'accomplir la parole de Dieu. Quand le temps arrive dans lequel Dieu veut faire quelque chose, alors il met sa parole en nous et alors son esprit vient sur nous comme puissance à cette parole et pour que la parole en nous puisse, par son esprit, être vivifiée et que la parole en nous puisse vivre comme une réalité et être manifestée. C'est ce que frère Branham ici voulait exprimer. Qui était Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui s'était passé avec lui? Il était une promesse de Dieu qui subitement s'est accomplie sans effort. Sans propres efforts, sans ajouter quoi que ce soit de soi-même. Le prophète Esaïe l'avait dit à l'avance. Une voix crie dans le désert. Préparez à l'Éternel le chemin. Aplanissez un chemin pour notre Dieu. Mais quand le temps fut accompli, Dieu a parlé à Jean. Vous pouvez le lire, car Jean dit, celui qui m'a envoyé pour baptiser m'a dit, celui sur lequel tu vois l'Esprit descendre, c'est celui-là. Donc Dieu avait parlé avec Jean. Dieu l'avait envoyé, l'avait mandaté. C'est ce qui s'est passé avec le ministère prophétique, avec le service prophétique de frère Branham dans nos jours. Il continue encore ici. Le seul plan unique de Dieu fixé en raison de sa parole pour cet âge qui par l'esprit de la vie a été vivifié est son fils. Je vous le dis aujourd'hui, celui qui a la révélation, celui qui ne reconnaît pas la révélation du Père dans le Fils, et qui place l'une personne à côté de l'autre et envoie plusieurs personnes. Il ne pourra jamais classer dans l'ordre ce que Dieu fait maintenant. Dieu ne place pas l'un à côté de l'autre, à droite et à gauche et à côté. Dieu place en son Fils. Dieu n'était pas à côté de Christ. Dieu était en Christ. Et a réconcilié le monde ainsi avec lui-même, en habitant, en étant en lui. Et c'est comme ça que nous devons le voir. Lorsque les gens mettent les choses à droite et à gauche, l'une à côté de l'autre, ils le font aussi avec la parole. Ils mettent aussi les choses à droite et à gauche, les unes à côté des autres, côte à côte, en face des autres, etc. Ils mettent la parole de côté et toute leur foi ne leur sert à rien. Vous ne pouvez pas mettre Dieu et les choses de Dieu côte à côte, mais plutôt l'une dans l'autre. Alors tout se fond dans l'autre et devient une seule pièce, une seule chose, une dans l'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous aussi ne sommes pas à côté de la parole. Nous sommes dans la parole parce que nous sommes devenus une partie de la parole. Oh, je souhaiterais qu'on aurait des paroles, des mots pour pouvoir exprimer ça. Mais je pense que l'Esprit de Dieu nous le révèle. Nous ne sommes pas assis seulement ici, selon le corps, dans le corps. Mais nous suivons l'Esprit. Quelque chose se passe en nous spirituellement. Cela continue encore ici, à la même page, en bas le dernier paragraphe. Peu importe la façon dont on nous a enseigné comment nous croyons, quelle part de la Bible nous croyons être vraie, ou si nous croyons que tout ce qu'elle contient est vrai. L'élan de l'étincelle doit être là pour que la parole s'enflamme et commence à fonctionner, à agir. C'est aussi nécessaire. Quand la dynamique manque, l'église s'arrête, la voiture s'arrête, vous vous arrêtez et rien ne sert à quelque chose. Et ça ne sert à rien de dire je suis d'accord avec la parole, je crois chaque mot. Vous avez besoin de quelque chose pour l'enflammer, pour faire jaillir cette étincelle de 100 octanes, pour que la grande église de Dieu se mette en marche. Elle a besoin de la dynamique avec la mécanique. Avec la mécanique, tout va bien, mais il manque la dynamique. La mécanique, et ça nous pouvons, pour l'honneur de Dieu, dire, nous avons tout par la grâce de Dieu. Nous avons pu joindre les choses ensemble, monter les choses ensemble à leur place par la grâce de Dieu. Et je suis étonné de voir des spécialistes travailler. Si quelqu'un, par exemple, démonte un moteur, je vous dirais, en 1000 morceaux, et moi, je ne sais pas où je devrais commencer avec toute la bonne volonté. Mais si quelqu'un est là, qui peut remonter un moteur démonté, cela m'étonne. Subitement, toutes les pièces sont à leur place. Remonter, étouffe. Et quand on allume, ça marche et on peut rouler. C'est une belle chose. Mais c'est ainsi aussi ici avec Dieu. Et avec toutes ces choses, dans le domaine terrestre, je n'ai pas ce don dans le domaine terrestre ni dans le domaine spirituel. Mais Dieu, lui, l'a pris soin. Il a, d'une manière si claire, montré les choses sous nos yeux. Et il a monté les choses et il nous a même donné le modèle, le plan et le modèle pour que nous puissions monter les choses, les classer dans l'ordre biblique, dans leur contexte, c'est-à-dire là où elles ont leur place. Et je crois que cela s'est passé. Ce qui doit maintenant suivre, c'est réellement, comme Frère Branham le dit ici, la dynamique. Je continue à lire à la page 17 en haut. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'Église aujourd'hui. Il lui manque la dynamique, la puissance dynamique pour prendre cette parole et la rendre réelle et vivante pour ce jour. Donc, alors ça veut dire que nous ne devons pas être à côté de la chose, mais être dans la chose et avec la chose, dans la parole, avec la parole et dans la foi, prendre la parole de Dieu dans la conviction que Dieu se tient dans sa parole et fait ce qu'il a promis. Se tient pour ce qu'il a dit et alors cela arrivera. Ici, il continue, il dit, Martin Luther avait la mécanique et la dynamique dans son temps. John Wesley l'avait aussi dans son temps. La mécanique et la dynamique. Les pentecôtistes les avaient aussi la dynamique et la mécanique. Maintenant, nous, dans notre temps, qu'est-ce qu'il y en est? Maintenant, c'est un autre temps dans lequel nous vivons. L'Église devrait avoir atteint la maturité et être prête à rencontrer Christ. Chaque bénédiction qu'il l'a promise dans la Bible devrait être manifestée et devenir réelle parmi nous. Et dans ce seul et unique corps de Christ, être efficace et agissante, là où selon sa promesse, il rencontre son peuple et veut être là, adoré, dans sa grande église. Quelle parole merveilleuse! Oh, qu'est-ce que nous pouvons encore dire ici? Nous pouvons que dire, Dieu Tout-Puissant, fais de ton église, ton temple, ton lieu de révélation, l'endroit où tu habites, où tu demeures, reviens parmi nous comme tu le faisais autrefois. Seigneur, que cela se passe, que cela ait lieu, que l'église, comme mécanique qui est constituée de plusieurs membres qui peuvent être joints ensemble pour que ensuite la dynamique, la puissance de l'esprit puisse venir dans l'église. Quand est-ce que notre Sauveur a commencé son ministère? Il s'est laissé d'abord baptiser d'eau et ensuite l'Esprit de Dieu, l'Esprit vint sur lui. Ensuite, après, il est passé par l'épreuve, par la tentation, mais c'était l'introduction dans son service, dans le service. Que Dieu puisse en connaître la grâce. Il est sorti du désert avec la puissance. Et ici, nous voyons de quoi il s'agit. Le frère Rousse a lu dans Éphésiens 1. Dieu nous a bénis de toute bénédiction, de chaque bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Et ici, frère Branham dit que chaque bénédiction qu'il a promise dans sa Bible, dans sa parole, doivent être manifestées. Et aussi, il dit où et quand et comment et être efficace et agissante dans ce seul et unique corps de Christ. Donc, pas seulement la théorie, mais ce n'est pas seulement des paroles et des prédications et des exposés sur le destin de salut de Dieu. Mais ici, il s'agit de l'expérience personnelle de la réalité divine dans l'Église du Dieu vivant. Et aujourd'hui, je le dis, combien de nous peuvent croire que Dieu est capable de le faire et qu'il le fera? Il y en a beaucoup qui disent oui. Si frère Branham était ici, oui. Oui, ils auraient pu aussi le dire autrefois, du temps de frère Branham. Si Paul était ici, ou bien du temps de Paul, si Moïse était ici, si tous les prophètes étaient ici. Je vais vous dire quand est-ce que cela se passe et qui doit être là. Pas un grand prophète quelconque, mais le grand Dieu qui en Jésus-Christ se révélait, se manifestait et qui est devenu ainsi ton et mon sauveur et qui a révélé son nom et sa parole. Si lui, parmi nous, au milieu de nous, il peut entièrement se révéler comme il veut, alors rien ne manquera. Alors nous n'avons pas besoin d'un prophète, plus d'un prophète, ça je vais vous dire comme c'est. Même si un grand prophète viendrait, par lequel Dieu pourrait agir, alors le grand prophète, de nouveau, recevrait la moitié de la gloire et de l'honneur, et la deuxième partie, Dieu la recevrait comme honneur et gloire. Et ça, Dieu ne le veut pas. Dieu veut avoir une église dans laquelle il peut se révéler et dans laquelle il peut se manifester et dans laquelle toute l'honneur et la gloire et l'adoration lui est donnée, lui est adressée et à personne d'autre. Et je crois que nous le savons, nous l'avons appris. Aucun de nous est capable de faire quoi que ce soit. Rien du tout. Et aucun de nous ne peut se procurer quelque chose si ce n'est que Dieu lui le donne. Mais ce que Dieu a promis, ça il le fera et il accordera. Et la restauration de toutes choses, il a promise et il accordera. Il a promis et il donne des promesses et ensuite il les accomplit. Je lis encore une fois. Chaque bénédiction qu'il a promise dans la Bible. Quelle bénédiction qu'il a promise dans la Bible doivent être manifestées, devenir une réalité. Et dans ce grand, dans cet unique corps de Christ, est efficace et agissante là où, selon sa promesse, il rencontre son peuple. Il veut rencontrer son peuple et veut être adoré par son peuple. Là, dans ce lieu, l'Église doit être une tente d'assignation, doit être pour les hommes, avec les hommes, un lieu de révélation, sous le coup de la parole de Dieu. Dieu nous rencontre. Dieu parle personnellement avec toi, par sa parole, sous le coup de la parole. Et si nous n'avons pas encore compris cela, dans une réunion, que c'est Dieu en cet endroit qui, par sa parole révélée, parle avec nous, alors je ne sais pas. Alors nous devrions, en fait, aujourd'hui, recevoir de Dieu et savoir que ici, l'Écriture n'est pas interprétée ici, ou bien expliquée. Ici, Dieu révèle sa volonté par ta parole. Ici, on n'est pas en train d'interpréter. Ici, on doit mettre en pratique ce qu'on écoute. Et ici, c'est la grande différence. Ici, ce ne sont pas des hommes qui interprètent la parole. Ici, Dieu révèle sa volonté. Je suis à 100% convaincu de ça. Ce n'est pas un frère Branham ou bien un autre homme sur terre a pu savoir tous ces précieux mystères de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui sonde toutes choses et qui révèle toutes choses. Et nous écoutons la sainte et pure parole de Dieu. Et c'est ainsi que par ces vérités divines, nous sommes nous-mêmes sanctifiés. Et c'est ainsi que nous devenons un vase que Dieu bénit et peut utiliser. Chaque promesse doit s'accomplir. C'est-à-dire, dans l'Église, et frère Branham le dit, dans sa grande Église. Nous dirions le mot grand, qu'est-ce que cela veut dire? Grande Église, qu'elle soit grande en nombre. Qu'est-ce que cela veut dire? Grande. Ici, frère Branham, n'est-ce pas, à considérer l'Église du Dieu vivant comme quelque chose de précieux. Comme il a vu quelque chose, comme quelque chose de précieux, l'Église du Dieu vivant. Et je pense que nous comprenons que la chose la plus précieuse que Dieu a sur terre, c'est la troupe rachetée par le sang. Ce sont les rachetés qui ont reçu la grâce. Ce sont les véritables enfants de Dieu. Pour nous, les choses vont dans ces jours de cette manière. Et encore cette parole, encore une fois, que nous avons lue hier. Soit le Seigneur disait à la femme, « Crois-moi, femme, que l'heure est là. » Où vous irez pas, vous irez plus adorer sur cette montagne ou bien à Jérusalem, mais où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mes bien-aimés, je crois la chose suivante, que là où Dieu, par son esprit, révèle sa parole, c'est là que l'inspiration divine vient, c'est là que l'onction divine vient. Et c'est là que nous pouvons adorer en esprit. Et Dieu nous viendra en aide. Aujourd'hui, que nous puissions dans la foi remercier le Seigneur, dans la foi adorer avec un cœur joyeux, étant convaincu que il nous a révélé sa parole et sa volonté. Il nous a révélé son nom. Il nous a révélé toutes choses. À lui, nous voulons aujourd'hui de tout notre cœur et de toute notre âme. Nous voulons remercier le Seigneur. Est-ce que vous ressentez cela ainsi? J'espère que tous, nous pouvons dire de la même manière, c'était bon, c'était bien d'avoir été ici. Et nos cœurs brûlaient alors qu'il parlait avec nous. La semence divine vient à la lumière et la croissance a lieu. Les bourgeons apparaissent, la fleur émerge et le fruit apparaîtra. Regardons, Seigneur, il a commencé son œuvre, il achèvera. Il achèvera toutes choses d'une manière glorieuse. Aussi certain que les promesses pour certains temps se sont accomplies en ceux et avec ceux qui croyaient dans, qui vivaient dans ces différents âges. C'est ainsi que maintenant, les dernières promesses dans le dernier, pour le dernier âge de l'Église s'accompliront en ceux, avec ceux et par ceux qui les ont cru dans leur vie. Cela s'accomplira. La condition, c'est de croire Dieu, de le prendre au mot, de le prendre à sa parole et de créer ainsi la condition pour qu'il puisse en nous accomplir ce qu'il a promis. Mais nous devons avoir cru la promesse. Abraham croyait Dieu et cela lui a été imputé à justice, en justice. Alors que pendant 25 ans, il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité. Si quelqu'un voulait l'attirer dans l'incrédulité, il était de nouveau. Il ne restait pas là, il partait. Il ne se laissait pas égarer. Il croyait de tout son cœur. Car l'incrédulité égare. La Bible dit qu'il ne s'affaiblissait pas dans la foi, mais au contraire, il se fortifiait toujours plus dans la foi et donnait l'honneur à Dieu ainsi. Alléluia! Parce qu'il faisait confiance à Dieu. Parce qu'il faisait confiance à Dieu. Il croyait Dieu. Il lui a donné l'honneur. Parce qu'il croyait Dieu. Comment est-ce que nous pouvons donner l'honneur à Dieu? Pourquoi nous donnons l'honneur à Dieu? Parce que nous le croyons, parce que nous l'aimons, parce que nous restons attachés à sa parole. Nous lui faisons confiance et nous savons qu'il est plus que capable d'accomplir ce qu'il a promis. Que ce qu'il nous a promis, il le fera. Il le fera. Oh, que l'Esprit de Dieu puisse en nous tous créer une telle assurance, une telle certitude, une telle foi, un tel amour, une telle confiance que nous puissions dire, Seigneur, nous ne comprenons pas encore entièrement pourquoi est-ce que justement c'est à nous que tu as parlé. Pourquoi c'est à nous que tu t'adresses. Pourquoi c'est justement à nous que tu révèles ta parole et ta volonté. Que tu as révélé ta parole et ta volonté. Mais Dieu a fait un choix. Nous ne pouvons pas le comprendre, mais c'est comme ça. Un grand héritage nous a été accordé. Et pour cela, nous voulons aujourd'hui remercier le Seigneur pour l'héritage que nous avons reçu. Pas en étant hésitant, mais ou bien alors fermé, mais ouvert. Vous savez, un vase fermé, on ne peut pas le remplir. On doit l'ouvrir pour qu'il puisse être rempli. Aujourd'hui, nous devons nous ouvrir dans la prière devant le Seigneur, ouvrir nos cœurs, nos bouches pour qu'il puisse remplir les vases vides. Et je crois qu'il le fera. Il nous remplira. Il nous bénira de la plénitude de sa grâce. Amen.